Les zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel.
Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, je suis avec Régis. Bonjour Régis.
Salut David et bonjour tout le monde.
Comment tu vas Régis? Il fait pas forcément très beau en ce moment.
Non, c'est vrai. C'est vrai, le temps n'est pas nécessairement merveilleux. Puis j'ai mes petites difficultés personnelles, mais le Seigneur est avec nous et du coup, il fait beau dans le cœur.
En plus, je crois que tu fais partie de ces HP qui sont en plus hypersensibles, donc ça doit te toucher un peu plus, non?
Ah, tu sais ça, toi.
Il y en a qui me semble que tu l'as déjà dit.
Oui, effectivement. J'ai même parlé d'être hyper émotionnel.
Ouais.
Hyper émotif, pardon.
Mais moi, j'ai entendu un commentaire aujourd'hui, alors je vais te le livrer brut comme ça, puis après tu en fais ce que tu veux, mais est-ce que ça existe vraiment, les personnes hypersensibles? Ou est-ce que ça serait pas juste des adultes qui ont décidé de rester des enfants capricieux et qui acceptent pas l'existence des autres?
Eh ben voilà, c'est comme ça, na. Mais oui, ça existe, bien sûr. Ça a été attesté et ça dérange beaucoup les gens qui ne vivent pas la même chose et qui du coup ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas se mettre à notre place. Et ça fait que dans les personnes accompagnées, par exemple, j'ai rencontré bien des gens qui pensaient qu'ils étaient fous, ou en tout cas pas normaux, qui se disaient je dois vraiment avoir besoin d'un psychiatre pour m'aider, parce que et en réalité, une des problématiques les plus difficiles qu'on puisse rencontrer en accompagnant des zèbres, c'est que parfois ils sont passés entre les mains de certains psychologues, psychothérapeutes, qui ont essayé de les faire progresser, de les faire corriger certaines choses qui sont en fait leurs caractéristiques neurologiques. Et si on avait vraiment voulu les changer, il faudrait changer le cerveau. Là, il y a des choses qui ont été attestées, qui ont été constatées avec des imageries du cerveau et du fonctionnement du corps, et qui ont même pu montrer les liens avec des imageries très développées entre le cerveau, le système limbique qui contrôle les émotions, et tous les neurones qu'on a dans le ventre, ce qu'on appelle des fois le deuxième cerveau. Et tous ces neurones autour de nos intestins sont vraiment des centres d'émotion. Et le fait que les HP réagissent beaucoup plus fort, c'est quelque chose d'attesté. Ça se voit dans l'imagerie. Ça se voit également dans le fait qu'on n'a pas le même cerveau que les autres. Il y a plus de myéline, si on veut, c'est la couche isolante dans ce qui fait le lien entre deux neurones. À partir d'un neurone, il y a tout un champ de contact qui se développe, les synapses. Chaque bout de synapse s'appelle un axone. Et là, autour, il y a une gaine isolante qui empêche les interférences. Et chez les HP, la couche de myéline est beaucoup plus dense, plus épaisse. Et du coup, la circulation se fait beaucoup plus vite. Il y a des tas de choses qu'on peut observer comme ça, qu'il y a plus de matière grise, qu'il y a beaucoup plus d'interactions entre le système limbique. Enfin bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais on a pu l'observer. Les scientifiques ont pu démontrer les choses. Il n'empêche que ceux qui ne fonctionnent pas comme ça ne peuvent pas nécessairement comprendre. Et on parle d'hypersensibilité. Moi, je voudrais réduire un petit peu ça, parce que hypersensibilité, ça peut être sensible, une sensibilité à n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont une hypersensibilité émotionnelle. C'est pas tout le monde. Et des personnes qui ont une hypersensibilité sensorielle. J'aimerais qu'on revienne beaucoup sur ces deux à la fin, parce que c'est vraiment les deux choses qui nous touchent le plus et qui peuvent le plus perturber. Mais je connais des personnes qui, de fait, ne peuvent pas supporter les odeurs fortes. Et on peut rien y changer. J'ai eu l'occasion de visiter le musée des parfums à Grasse avec une personne de ce genre, une personne qui s'est vraiment trouvée mal et qui a dû sortir. Et pour le temps qu'on a pu passer ensemble dans le musée des parfums, ils nous ont expliqué que les nez qui créaient ces parfums étaient dans une pièce totalement isolée, parfaitement ventilée avec des filtres, parce que les odeurs de parfums que tout le monde trouvait merveilleuses dans les salles de création de parfums, pour ces gens-là, c'est une horreur, c'est insupportable. Et il peut y avoir la même chose pour des bruits, on voit des avertissements parfois sur certaines séries télé, sur certains films, en disant « attention, il y a des images stroboscopiques ». Mais c'est vrai, il y a certaines personnes face aux lumières stroboscopiques qui font des crises d'épilepsie. Ils ne font pas semblant.
C'est rigolo parce que je ne m'étais jamais posé la question, mais quelque chose qui est terrible pour moi, c'est d'aller acheter un parfum pour ma femme. je peux pas rentrer chez Sephora ou chez. J'y suis allé à Noël, tu vois, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de parfum. Et il y avait une queue de fou, j'ai passé 20 minutes. Ça a été 20 minutes, c'est la torture pour moi de passer ces 20 minutes, le nez dans mon pull, pour pas sentir cette odeur qui m'oppressait, qui me rendait fou. Mais faut croire que j'aime plus ma femme que je déteste les odeurs.
Alors, c'est pas que tu détestes les odeurs. Au contraire, probablement que les odeurs, tu les aimes plus que n'importe qui. Mais tu y es tellement sensible que quand elles sont denses, elles deviennent agressives. C'est beaucoup plus ça. La même chose pour les sons. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter les bruits violents. Je me souviens d'un musicien qui m'avait expliqué que dans l'orchestre philharmonique où il jouait, l'Orchestre national de Lyon, il y avait parfois des musiciens qui tombaient dans les pommes en jouant au milieu du concert parce que certaines musiques étaient trop éprouvantes, trop violentes pour eux. Je ne peux pas comprendre, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai d'autres sensibilités ailleurs. Mais de toute façon, quelles que soient nos sensibilités, ça relève de cette hypersensibilité. Alors, pour essayer de le situer, moi, je voudrais dire que ça rejoint aussi, alors, d'abord, les sensations qu'on n'arrive pas à gérer, les émotions qui nous débordent, qui dépassent notre contrôle, qui font qu'on ne gère plus la situation. Et ça peut expliquer beaucoup la place de l'anxiété. Parce que face aux gens normaux, pardon de dire normaux, ça ne veut pas dire que nous sommes des anormaux. Ça veut dire que nous sommes, que nous sommes hors normes, que nous ne sommes pas dans la moyenne du fonctionnement. Et du coup, par rapport à ces personnes, on peut paraître complètement lunaire. Je comprends, j'accepte. Ça peut nous faire nous sentir très mal et on a besoin de progresser. Alors, j'ai trouvé pour ma part un outil. Je ne vais pas dire, je comparerai ça ni à la Bible, ni à la présence du Saint-Esprit. C'est clair, ce n'est pas une révélation. Mais c'est quelque chose qui m'a aidé à problématiser un petit peu, à mieux comprendre. Et c'est les travaux d'un psychiatre polonais qui s'appelle Dabrowski. Alors, son prénom, c'est Casimir. Oui, bon, Casimir pour le dire à la française, Kazimierz Dabrowski. Cet homme a travaillé d'abord en Pologne, et puis il a fait une partie de ses recherches, de ses études en France et en Suisse, à Genève. Il a été le chef du service de pédopsychiatrie à Genève. Après, il est parti aux États-Unis, et pour finir, il est revenu en Pologne. Si je me souviens bien, quelques déboires avec la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il est né en 1902 et il est mort en 80. Donc, il a connu les deux guerres mondiales. Mais dans ses travaux, il a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la désintégration positive. Ça peut paraître très bizarre de mettre ces deux termes ensemble. Avec, pour faire très court, l'idée que quand on est et qu'on commence à se structurer mentalement comme personne, on arrive à ce qu'il appelle, lui, l'intégration primaire. Il y a des tas de facteurs, aussi bien des facteurs héréditaires que les facteurs de notre éducation, de notre environnement, de notre école, etc., qui vont nous façonner et qui vont nous permettre de fonctionner dans la vie sans avoir trop besoin de réfléchir. Il y a des choses qui nous arrivent, paf, on sait comment réagir à telle situation. On sait que quand on sent une chaleur un petit peu forte, il faut se reculer parce que sinon on va se brûler. Mais on sait la même chose dans plein de domaines. En milieu chrétien, on sait bien que dans les premiers temps, on apprend tout un tas de versets bibliques, en tout cas dans les églises évangéliques. Moi, j'ai grandi avec ça. Pour chaque situation de la vie un petit peu compliquée, paf, il y avait un verset biblique. Et on disait, et donc, à partir de ce verset, ça veut dire ça, ça et ça. Et boum, on avait intégré. Et si on comprend le verset autrement, c'est qu'on interprète. Donc, voilà, on est intégré. Et tout marche. Et puis, il y a des circonstances de la vie qui viennent tout révolutionner, tout à coup, tremblement de terre. Ça peut être des choses très terribles. C'est pour un enfant, la mort d'un proche, les parents qui divorcent ou que sais-je, voilà, des choses qui remettent tout un tas de choses en question. Moi, j'ai vécu une crise de ce genre-là quand je me suis trouvé en théologie et puis que tout ce que j'avais appris enfant était déconstruit par mes profs de théo et que je ne savais plus où j'en étais. Et ensuite, petit à petit, on arrive à décanter tout ce qu'on avait intégré de l'extérieur, des influences extérieures, pour aller vers qui nous sommes vraiment nous, non plus répondre aux besoins des autres, j'en ai déjà parlé, du faux self, des choses comme ça, devenir pleinement soi-même. et au bout d'un cheminement en 5 étapes, arriver à l'intégration complète de sa personnalité, mais non pas comme on pense que la société nous voudrait, mais en pleine vérité par rapport à soi-même, et particulièrement par rapport à nos valeurs profondes, celles qui montent en nous du plus profond de notre être, et que quand on n'arrive pas à les gérer correctement, qui nous mettent tellement en colère. Mmh. Donc, face à tout ça, il a fait cette théorie en observant particulièrement, alors pas tout seul, hein, il y avait toute une équipe aussi autour de lui, mais ils ont été pas mal de psychiatres et de psychanalystes à observer que certaines personnes qui consultaient comme si elles étaient malades, en fait, étaient seulement des personnes qui se sentaient mal. Et ils sont arrivés à dire que certaines personnes qui sont en cheminement de croissance, de développement personnel, les personnes passaient par une phase difficile, douloureuse, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit pathologique. Peut-être que même c'est positif, qu'il peut y avoir certaines épreuves de la vie, certains moments très compliqués à vivre, très douloureux, mais qui nous font grandir et qui nous font devenir toujours plus qui nous sommes. Alors, pour le prendre d'un point de vue chrétien, devenir toujours plus tel que Dieu a voulu nous créer et pas tel que la société a voulu nous façonner. Et dans cette recherche, il est arrivé surtout à quelque chose de très central pour moi, qui m'a beaucoup aidé et qui a aidé beaucoup de gens. Alors, si on veut trouver ses travaux, juste je dis en passant, en France, on n'a qu'une seule personne qui a écrit sur lui, qui a fait 2 livres jusqu'à présent. Le premier, c'est « La théorie de la désintégration positive » de Dabrowski, tout simplement. Et le deuxième, c'est « Cheminer avec Dabrowski ». Et cette personne, c'est Patricia Lamar, qui est une psychologue et psychothérapeute à Orléans. Elle a écrit dans « Sens et liens ». Alors, si jamais, on pourra même donner à ceux qui le désirent les références de ces 2 livres. Ça, c'est juste pour dire où se renseigner. Pour nous, ce qui est important, c'est que la plupart des travaux se trouvent en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Il a beaucoup écrit en polonais et en français, ce qui fait que les Américains, c'est surtout eux qui travaillent là-dessus, ont dû aller travailler sur des textes en français et en polonais pour arriver à comprendre. Et on est arrivé, par exemple, à avoir un autre regard à partir de ce que lui appelle les surexcitabilités. Alors, est-ce que je me suis donné ? J'ai dû me les noter quelque part, mais il y a 5 types de surexcitabilité, voilà, émotionnelle, imaginative, intellectuelle, sensorielle et psychomotrice. Et du coup, les recherches sur ces sensibilités, ça a amené, entre autres, un certain Howard Gardner à développer sa théorie sur les intelligences multiples. Mmh. Ça me touche tout particulièrement parce que ça nous permet de discerner qu'il y a des personnes qui sont HPI et qui ne sont pas des intellos. Ça existe, des personnes qui ne sont pas spécialement théoriciennes. Et dans le monde d'études de la douance, quand on ne passe pas seulement par les tests de QI, il arrive qu'on utilise ces 5 surexcitabilités en disant quand une personne a au moins 2 des 5 surexcitabilités, elle est dans la douance. Mmh. De la même façon que, même si c'est assez rare, on observe parfois des personnes qui ont un très haut QI, qui ont une très grande capacité analytique, qui ont une très grande capacité de mémorisation, mais qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'on appelle les surdoués, des personnes qui n'ont pas spécialement d'empathie, qui n'ont pas de problèmes émotionnels, qui n'ont pas de ressentis particulièrement forts. Fabrice Michaud, dont j'ai déjà parlé, a tendance à appeler ces personnes des clichés cerveau gauche. Effectivement, des personnes qui sont super intelligentes et qui ne sont que ça. Dans la douance, cette idée des surexcitabilités, elle est vraiment intéressante. Et je voudrais souligner qu'il y a, par exemple, la surexcitabilité psychomotrice qui permet à certains d'avoir un regard complètement différent sur les troubles qu'on appelle troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA, trait d'union H. La première réaction des psychiatres a été pendant très longtemps pour les enfants atteints de TDA, surtout dans le cadre de l'hyperactivité, de donner des médicaments pour les assommer. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est peut-être juste une autre façon d'être, qui n'est pas celle de monsieur et madame tout le monde, qui permet par contre beaucoup plus de créativité que la plupart des gens. Et pour ces personnes-là, il s'agit de vivre autrement. d'apprendre à vivre avec sa réalité. Certains le considéreront comme un handicap. Pendant une phase de mon développement et de mon acceptation de ma douance, je me suis considéré comme un handicapé.
Mmh.
Et ça m'a beaucoup aidé, en réalité. Maintenant, je ne veux plus. Maintenant, je dis, je suis juste différent. Mais un temps, j'avais le sentiment que ça me handicapait de ne pas être comme tout le monde. Mais pourquoi pas? C'est une façon de voir. Mais ces surexcitabilités, elles vont nous aider et elles vont nous permettre de réaliser que, précisément, on n'est pas nécessairement atteint par, enfin, touché par une surexcitabilité intellectuelle pure. Dans une époque de ma vie, j'ai été cuisinier avant d'être pasteur et j'ai été dans le monde des artisans. Je n'étais pas un grand cuisinier. Je reconnais que j'étais là plus pour découvrir le monde du travail manuel qu'autre chose. J'aime beaucoup la cuisine, mais je n'aurais jamais eu 5 étoiles. Enfin, de toute façon, ça n'existe pas. En cuisine, au maximum, c'est 3. Mais j'ai découvert des artisans extraordinaires. Et maintenant, avec le recul, je me dis, ce sont vraiment des surdoués. Par mon épouse, qui est musicienne, j'ai découvert aussi des musiciens extraordinaires, des artistes de talent. Elle est aussi peintre et je peux voir du coup certaines approches par la peinture. Et je me rends compte que certaines personnes sont des zèbres à 100% et ne sont pas des théoriciens. Et ils entrent dans cette catégorie avec ce qu'on a pu dire et que je voudrais reprendre, c'est-à-dire tout ce qui fait que quand des sensations nous perturbent, parce qu'on les ressent trop fort, ça ne veut pas dire, comme tu disais tout à l'heure, je déteste les parfums, mais non, c'est pas le cas. Au contraire, la personne dont je parlais, que je connais bien, c'est une personne qui, spontanément, quand elle ne réfléchit pas, quand elle est vraiment en réaction primaire, sent tout ce qui l'entoure. C'est une personne qui, en se promenant, on va être capable de dire « Oh, t'as senti ça, ça sent très, très bon. » Et des fois, c'est tous ceux qui sont autour lui disent « Ben non, nous, on n'a rien senti. » Mais cette subtilité-là fait que c'est une de ses approches sensorielles principales dans la vie.
Mmh.
Comme, par exemple, un photographe va être extrêmement sensible à certaines images et du coup, avec cette surexcitabilité visuelle, il va percevoir des choses que personne d'autre ne voit. Et avec ces photos, va permettre de les rendre évidentes pour tout le monde.
Mmh.
Là, on peut l'imaginer dans plein de domaines. Certaines personnes, ça va être des saveurs. Et ça va entrer dans ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Alors, dans les questions qui nous ont été adressées, il y a des personnes qui ont parlé d'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est ça. C'est être extrêmement sensible, extrêmement réceptif à certaines sensations. Donc, des sensations qu'on va pouvoir aimer, pas toutes. On va peut-être pouvoir en détester certaines, mais quand ces sensations, quelles qu'elles soient, même quand on les aime, quand ces sensations deviennent trop fortes pour nous, alors elles deviennent agressives. Mmh. Alors on vit mal et il faut apprendre à vivre avec. Il faut savoir se protéger. Et c'est important. Et puis, il y a une autre chose qui a été évoquée, je pense, par la même personne, avec les hyperesthésies. Cette personne, elle a parlé des synesthésies.
Mmh.
L'hyperesthésie, c'est sentir trop fort. La synesthésie, c'est sentir ensemble. Et c'est quelque chose apparemment que nous aurions tous à la naissance. Toutes nos sensations venaient quand on était tout petit, pendant nos 6 premiers mois de vie. Elles étaient intégrées dans notre cerveau. Et puis petit à petit, on a appris à les distinguer. Et puis en grandissant, un son, c'est un son, une odeur, c'est une odeur, un goût, c'est un goût. Une sensation de toucher, c'est une sensation de toucher. Ça peut être un coup, ça peut être piquant, ça peut être chaud, ça peut être une caresse. J'étais tout surpris de découvrir que maintenant, on arrive à distinguer parmi les neurones, certains neurones qui sont les neurones de la caresse. Et tout récemment, parmi les neurones de la caresse, ils ont pu distinguer ceux qui sont les neurones de la caresse au sens sexuel et ceux qui sont les neurones de la caresse au sens uniquement sensuel. Les personnes qui sont très tactiles vont me comprendre. Parfois, on a besoin d'être caressé sans aucun arrière-plan érotique derrière. La caresse reçue ou donnée, c'est juste une expression d'affection. Pour monsieur, madame, tout le monde, pas du tout. Donc, avec des gestes comme ça, avec une telle sensualité, ils vont se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là? Ils sont ensemble, ils sont... Et mais non, pas du tout. Et donc, on peut avoir toutes ces sensations-là et on doit apprendre à vivre avec, on doit apprendre à vivre en société avec. Avec le Covid, pour les personnes dont je fais partie, qui sont plutôt tactiles, mais quelle horreur, le temps du Covid, pas pouvoir serrer la main, pas pouvoir prendre dans ses bras, pas pouvoir embrasser, mais quelle frustration. Et quand on vit dans une société où c'est pas trop permis, nous, on a de la chance, c'est pas mal permis chez nous. C'est que les Américains, par exemple, ben, de temps en temps, ils vont faire un hug, mais la plupart du temps, on se touche pas. Mais c'est l'enfer sur Terre. Et la même chose pour plein de choses, pour plein de domaines. Alors, la synesthésie, ça va être des personnes qui vont associer deux sensations ou plus. J'ai entendu parler de musiciens. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que avec, surtout si on a une surexcitabilité imaginative ou créatrice, on peut tout à fait concevoir que ça aide à trouver des cohérences là où les gens n'en trouvent pas. Par exemple, ces musiciens disaient qu'ils avaient des musiques bleues ou des musiques rouges, et du coup, ils pouvaient avoir des musiques violettes quand ils étaient sur la limite entre les deux. Et ils arrivaient à, en mettant une image de couleur dessus, à le percevoir comme ça. Je me souviens qu'en cherchant des équilibres de saveurs dans les plats, je me suis rendu compte que pour moi, c'était évident qu'il y avait des goûts qui étaient sombres. Alors que d'autres sont lumineux. Et ben voilà, la synesthésie, c'est ça. Attention à savoir que pour la plupart des gens, quand on va évoquer ce genre de choses, une saveur lumineuse, une musique orange, ça va être, dans l'esprit des gens, ça va être une allégorie. Ils ne vont pas imaginer que c'est la réalité première de la personne qui l'exprime. Donc, sachons nous adapter à ceux qui sont autour de nous et qui ne pourront pas comprendre comme nous. Pour eux, ça n'a pas de sens. La synesthésie, il y a certaines personnes chez qui ça existe. Probablement que chez les HP, ça peut être assez présent. En tout cas, sur les personnes qui ont des surexcitabilités sensorielles, ça doit être assez présent. Ça peut être très positif, mais on ne peut pas l'imposer aux autres parce qu'eux ne le comprendront jamais. Dans leur vie, ce n'est pas possible.
Et je vois justement qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à se protéger, à aller à un concert avec un casque, à protéger leurs oreilles parce qu'ils sont plus sensibles, à mettre en place des sortes de protocoles. On commence à avoir des gens qui commencent à s'écouter et écouter leurs ressentis et à mettre des choses en place.
Et ça, c'est une très belle chose. Savoir s'adapter, et tant pis, on peut toujours dire « mais ouais, on a l'air ridicule ». Qu'est-ce qui est le mieux ? Avoir l'air ridicule ou s'autodétruire ? Parce que c'est ça, ça nous atteint tellement à l'intérieur qu'on n'est plus dans une relation saine avec notre entourage. Savoir gérer ces choses-là, et c'est le cas tout particulièrement pour l'hyper-excitabilité émotionnelle, quand on est hyper-émotif, il faut le savoir. Et il faut savoir quoi faire avec. Il faut comprendre que l'autre ne comprend pas. De la même façon que avec certaines capacités intellectuelles, qu'on soit ou non un intello, qu'on soit ou non un théoricien, on a un haut potentiel intellectuel, et ben, on comprend mieux que les autres, même s'ils ont l'impression qu'on ne comprend rien des fois, parce qu'on ne comprend pas leurs évidences. Et, on a nos propres évidences, nous, nos implicites, que eux ne perçoivent pas, et nous, on ne comprend pas leurs implicites. Mais au-delà de ça, c'est à nous de veiller, sans nous suradapter, sans renier qui nous sommes, à veiller à notre relation avec eux et à prendre en compte le fait que certaines choses, ils ne peuvent tout simplement pas les comprendre parce que dans leur vie, ça n'existe pas. Mmh. Comment je vais faire pour faire comprendre le parfum d'une rose à quelqu'un qui n'en a jamais vu ni senti ? Ils ne peuvent pas. Mmh. Ces réalités, ces choses que je vis au quotidien, eux ne les vivront jamais, ils ne les ont jamais vécues. Donc, à moi de m'adapter, de prendre en compte cette différence, d'accepter qu'il y a des choses chez eux que je ne comprendrai jamais et que, ben, il y a des choses que je vis et qu'eux ne peuvent pas comprendre. Mais le plus important pour moi, avant de penser aux autres, c'est de commencer à penser à soi. Pour pouvoir aider les autres, il faut que je sois en bonne santé affective et psychologique. Pour ça, Mettre un casque pour se protéger les oreilles quand on va au concert, c'est très bien. Veiller à ne pas s'exposer à des lumières violentes quand on est trop sensible au niveau de la vision, c'est se protéger. La même chose pour les émotions, savoir éviter ce qui risque de nous exposer à des choses terribles. Il y a eu une époque où on faisait circuler sur les réseaux sociaux énormément de vidéos de personnes qui étaient égorgées par Al-Qaïda et les autres islamistes djihadistes. J'en ai vu une qu'un neveu m'a montrée. J'en ai été malade pendant plusieurs mois. Je sais que je n'ai jamais accepté d'en voir une deuxième. Je ne peux pas. C'est ma protection. Je sais que ça existe, d'accord, j'ai vu une fois. Je sais que ça existe. Je n'ai pas besoin de le voir une deuxième fois. J'ai été tellement impressionné cette fois-là. Je n'ai pas besoin de voir une deuxième fois. Je sais très bien ce que ça représente. Je n'oublierai jamais. Des personnes à qui ça fait relativement peu d'effet, je ne peux pas comprendre, j'admets. Et du coup, je ne peux pas demander ça à monsieur, madame, tout le monde. Mais par contre, je peux demander à mes proches d'accepter que je suis comme je suis. Je pense à une personne qui a été exposée à des films d'horreur pendant l'enfance et qui mettait beaucoup en scène des choses démoniaques, etc. Une personne qui ne peut pas voir des scènes. Alors, il y a des choses, je pense à la série Buffy contre les vampires. Franchement, quand on voit les mises en scène du monde démoniaque dans ces trucs-là, on se dit, c'est rien. Sauf que pour cette personne-là, c'est pas possible. Avec son hyper-émotionnalité et son histoire d'enfance, les deux se télescopent, elle ne peut pas. Et à moi de savoir qu'avec cette personne, je ne proposerai jamais quoi que ce soit qui aille dans ce domaine. Même si je dois parler de ce que la Bible peut dire du monde des forces de ténèbres, je vais être prudent dans ma formulation. Je m'adapte à l'hyper-émotionnalité de cette personne et avec cette sensibilité particulière. Eh bien, je peux m'adapter à mon hypersensibilité à moi et veiller à ce que ceux qui m'entourent la connaissent aussi et qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent mon besoin. Ils ne peuvent pas nécessairement... J'ai eu l'occasion récemment encore de parler avec une personne qui me disait « Ouais, mais ma compagne, elle n'est pas zèbre. Et comment on fait pour... comment je lui fais comprendre, quoi ?» Mais des fois, on ne peut pas faire comprendre, on peut faire admettre. De toute façon, on le dit déjà dans les relations de couple, entre hommes et femmes, il y a des fonctionnements différents. Et il y a des moments où il faut simplement dire « Mon chéri, ma chérie, je suis comme ça. » C'est tout. Je suis comme ça. Et je te demande, s'il te plaît, de prendre en compte mon besoin, mes limites, mes faiblesses. Ce n'est pas une exigence, je ne peux pas l'exiger. Je sais que dans la vie normale, ça se fait. Eh bien, pour moi, ce n'est pas possible. Et savoir vivre ça, savoir dire, par exemple, à un certain moment dans une crise de couple, si on continue comme ça, je vais te dire des choses que je vais regretter toute ma vie. J'ai besoin de sortir faire un tour, mais il faut que je retombe. Là, ça bouillonne tellement en moi que je suis à la limite de perdre le contrôle. On ne peut plus parler, je vais faire un tour. Pourquoi pas? Savoir poser ce genre de limite, c'est super important. Et il y a des moments où, malgré tout, on perd le contrôle. Il y a des moments où, malgré tout, une personne que j'accompagnais il y a quelques semaines m'a dit « Mais oui, mais tu sors d'où, toi ?» Mais comment tu fais pour gérer ça? Et comment je fais, moi? Pour le moment, ça n'a pas commencé. Je lui ai proposé qu'on ait une série d'entretiens, d'accompagnement. Mais il y a autour de nous des personnes ressources qui peuvent nous aider. Veillez à ce que ce soit des personnes en qui vous avez confiance et à ce que ce soit des personnes qui comprennent la problématique des zèbres. Mais si vous êtes face à un problème, mais faites-vous accompagner. C'est important, c'est très important. Souvent, ça ne dure qu'un temps. On a tout à fait les ressources nécessaires. C'est aussi une des choses qui explique Dabrowski. Quand on a trouvé ses propres repères, après, on peut très bien s'autogérer, ce n'est pas le problème. Mais parfois, à certains moments de crise, on a besoin d'être accompagné. De toute façon, quelles que soient vos sensibilités, vos hypersensibilités, vos hyperesthésies ou vos synesthésies, de toute façon, vous n'êtes pas fou. Vous avez juste besoin, dans un temps particulier, de repères qui vont vous aider à vous reconstruire autrement et à aller plus loin.
Eh bien, merci pour tout ça, Régis. C'était passionnant encore une fois. Et puis, j'espère à bientôt pour un nouveau sujet.
C'est sûr, c'est sûr. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup ce podcast. On va continuer.
Ça marche. À bientôt tout le monde.